Contre spirituel, c'est la fête dans toute l'église de Saint Thomas Becket, ou Thomas Becket, au fond. Ces gens-là parlaient, je crois, français à l'époque, ou latin. Thomas Becket, archevêque de Canterbury, en Angleterre donc, évidemment, assassiné par le roi Henri II, Plantagenet. Henri II était pourtant un grand ami de Thomas Becket. Et le drame s'est produit en 1170. Et c'est un des drames de l'Église les plus importants dans l'histoire de l'Église. Et saint Thomas Becket est devenu, à la suite de ce drame terrible, cet assassinat, il a été assassiné dans sa cathédrale à Canterbury, eh bien son tombeau est devenu, pendant des siècles, jusqu'à Henri VIII qui a fait disperser les cendres, il l'a profané, Henri VIII, c'était épouvantable, vers 1540. Eh bien, Thomas Becket avait comme tombeau, un tombeau qui attirait tellement les foules, qu'on dit dans bien des ouvrages qu'il y avait plus de monde à son tombeau qu'il y en avait à Saint-Jacques de Compostelle, qui était pourtant le lieu de pèlerinage le plus fameux à cette époque, et même qu'à Jérusalem. Alors, c'est pas peu dire jusqu'à quel point Thomas Becket a marqué l'histoire de l'Angleterre. Au point que, d'ailleurs, des auteurs comme Jean Anouilh, écrivain français, qui a écrit bien des choses différentes, et qui est mort en 1987, a écrit une pièce sur Thomas Becket en plus de son Antigone, et puis vous savez, je me souviens du bal des voleurs qu'on avait donné ici à Montréal autrefois, puis toutes sortes de pièces, la répétition ou l'amour puni. Mais son Becket est devenu un film britannique en 1964. Et il y avait là de très très grands acteurs dans ce film que l'on peut-être obtenir dans les vidéos, les clubs vidéo, là où on peut louer des cassettes vidéo. Ce film est avec Peter O'Toole, Richard Burton, c'est pas peu dire. Et on dit de ce film qu'il est classé 3, c'est donc un bon film. Ce serait à voir. Mais il y a aussi T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, un Américain devenu britannique, qui a écrit Meurtre dans la cathédrale, Murder in the Cathedral, une des pièces britanniques les plus importantes. Saint Thomas Becket a donc eu une vie tragique. Ça a marqué la lutte entre l'Église et la monarchie. Cet assassinat de Saint Thomas Becket a troublé les hommes du Moyen-Âge occidental en Europe. Et ça a valu à Becket immédiatement, comme je vous ai dit, une gloire universelle et le titre de martyr. Saint Thomas a été jugé très diversement. Bon, il y a des vies de lui qui sont de pures apologies, où on ne voit que toute la beauté de sa vie. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des nuances à apporter. Un grand historien de valeur, Charles Petit du Tailly, qui l'a trouvé, lui, il est un historien de valeur, mais il n'est pas allé de main morte. Il le trouvait infatué et haineux, impatient de toute contrainte. C'est-à-dire qu'il avait peut-être ça comme trait de caractère, mais ça l'apportait à la sainteté. Vous savez que souvent les hommes impatients deviennent des saints. On l'a trouvé peut-être un peu raide, un peu cassant, un peu âpre au gain à un moment donné de sa vie, mais ça, il s'est converti de ça. Les saints ne sont pas des saints tout de suite au berceau, ou à leur adolescence, ou même à l'âge mûr. Il y en a qui n'y arrivent qu'à l'âge de 50 ans, 70 ans. Il y a un portrait esquissé par un moine bénédictin, dont Knowles, un bénédictin britannique anglais, qui semble donner une note assez juste. Faudrait que je vous relise ça. Mais de toute façon, les sources ne manquent pas sur Thomas Becket. Il y a de nombreuses vies qui ont été publiées, puis ce qu'on a publié, ce qui est intéressant, c'est 7 volumes de materials qui le concernent, qui sont d'époque, puis sa correspondance, plus de 800 lettres. La correspondance a une chronologie plus ou moins sûre, mais ça peu importe. Les attributions aussi des lettres sont parfois peut-être discutables, mais les lettres de Becket sont en général des pièces officielles, des lettres d'affaires qui permettent pas tellement bien de le connaître, quoi qu'il y en a quelques-unes. Lorsqu'il semble exprimer un sentiment profond, comme dans une lettre à Conrad de Wittelbach, archevêque de Mayence, il sort des choses qui donnent à son texte un air un peu factice. Il est... disons qu'il y a de l'artifice là-dedans, il me semble, moi. Mais évidemment, il faut tenir compte du temps du 12e siècle. Il dit « Malheureux que je suis, quelle est ma faute? Quel mal ai-je mérité? Si mon dévouement a dépassé l'attente des hommes, si ma fidélité le désir de mes amis, si par dévouement j'ai tout quitté, dépouillé de tout, par une vue de foi, si j'ai suivi, humilié avec mes misérables compagnons, mon père et seigneur, et me suis exposé à tous les périls, voilà donc la récompense de notre confusion, le relèvement des perdus, la compensation de la racine amère par la douceur des fruits. » Oh là là, on lit ça, puis on se dit, me semble qu'il charrie un peu. C'est même obscur. Mais est-ce que tout ça traduit sa sincérité? Est-ce que ce sont pas simplement des formules, comme souvent les gens qui ont des postes importants se permettent d'en avoir? C'est pas tellement important. J'aimerais aller au cœur de sa sainteté. Le drame se déroule au 12e siècle, donc, sous le roi Henri II Plantagenet. La monarchie féodale anglaise est une grande puissance, est bien plus forte que la royauté française. La royauté française s'étend seulement de Paris à Bourges, c'est tout petit. La monarchie anglaise, elle domine de l'Écosse aux Pyrénées, dans le sud de la France, près de l'Espagne. Et c'est à elle qu'appartiennent les villes de Rouen, de Nantes, de Poitiers, l'Auvergne appartient à l'Angleterre, Bordeaux, Bayonne, c'est incroyable, hein? Et l'Angleterre a remis en vigueur des usages de l'Empire carolingien puis de l'Empire romain. Ça préfigurait, ça, les méthodes de gouvernement d'un État moderne. Et le roi Henri aspirait secrètement, quoi, au totalitarisme, finalement. Il était ambitieux. Et saint Thomas, lui est de souche normande, bien qu'il soit né à Londres. Et sans tomber dans les généralisations, on peut dire que les hommes qui entouraient Guillaume le Conquérant présentaient quelques traits caractéristiques qu'on peut observer chez leurs cousins d'Italie ou de Sicile, qui avaient reçu des influences plus ou moins arabes, hein, actifs, directs, durs, parfois brutaux. Le père de Thomas Becket était chevalier. Il appartenait à cette classe des nobles chevaliers. Il avait entrepris de commercer à Londres, puis il était bien vu à la cour. Il était devenu un des notables de la ville. Mais il y a eu des revers de fortune. Ça assombrit la fin de sa vie, puis Thomas Becket naît donc à Londres, comme je vous ai dit, vers 1118. Il semble que son père ait été plutôt dur pour lui. Mais sa mère, que Dieu lui conserve jusqu'à l'âge de 20 ans, lui transmet sa piété, sa dévotion à la Sainte Vierge, à Notre-Dame, comme on disait à l'époque, et son goût pour une vie foncièrement chaste. Il faut dire ça, qu'il a été chaste, hein? Et puis une grande générosité pour les pauvres aussi. Sa mère le marque, il l'a aimé. On dit souvent qu'elle était d'origine musulmane et qu'elle était une convertie, une sarrasine, comme on disait à l'époque. Les deux sœurs de Thomas, dont l'une est devenue abbesse de Barking, ont eu sans doute une influence sur lui, mais on l'ignore, car il n'y a pas de lettres vraiment qui se soient échangées. Thomas Becket était grand. On dit qu'il était même beau. C'était un homme vigoureux, un batailleur. Il avait les cheveux noirs, le nez aquilin, le teint habituellement un peu pâle. On dit que son œil était perçant et puis qu'il avait une oreille, il entendait très bien et de loin. Et sa mémoire fonctionnait à perfection. Elle enregistre fidèlement tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a entendu. Une espèce de génie à sa façon, hein. Il parle avec facilité. Il est super intelligent. Il riposte très, très bien dans les discussions. Et jeune homme, il prend un vif plaisir à faire du cheval. Il aime les chevauchés. Jeune homme aussi, il aime la chasse aux faucons. Il n'est pas encore un saint nécessairement, quoique c'est peut-être pas contraire à la sainteté, que d'aimer les grands chevauchés, pourquoi pas, hein? Il est fait pour l'action. Il est fait pour le gouvernement, Thomas Becket, et pour le combat. Et après avoir étudié à Paris jusqu'à vers 1139, mais il est jamais devenu un homme de livres, c'est pas un lecteur enragé, là. Il entre comme intendant chez un de ses proches, là, puis gouverneur, quoi, d'une grande maison. Et puis Thomas, comme on l'appelait de Londres, c'est comme ça qu'on l'appelait, Thomas de Londres, puisqu'il est né à Londres, est devenu clerc de l'archevêque de Canterbury, Monseigneur Thibault, un compatriote normand. Il se rend bientôt indispensable à ce vieil archevêque, et cela vaut à Becket des voyages très intéressants à Rome, et vers 1151-1153, il fait des séjours profitables dans les grandes écoles de Bologne, qui était une ville intellectuelle remarquable, Bologne, puis à Auxerre aussi, dans le centre de la France, en Bourgogne, puis il étudie le droit. L'argent lui vient facilement. Ça favorise ses goûts de magnificence, d'apparat. Il aime l'apparat, il aime ses choses. Il est jeune encore, il est pas un saint, hein? Puis il aime plaire, mais il est beau. Ça arrive souvent à ces gens-là, hein? Il tient à se rendre populaire aussi, puis il veut être applaudi. Il aime la compagnie des gens. Il réussit par son charme, sa générosité aussi. C'est pas un mauvais gars. Il reste quand même loyal. C'est un ennemi du mensonge. On l'admire, on le suit, mais peut-être sans l'aimer vraiment. De son côté, il semble avoir aimé vraiment que le vieil archevêque Thibault, puis le jeune roi Henri II, qui prend le pouvoir en 1154 à 22 ans. Et cette année-là, saint Thomas Becket, qui a 36 ans, je l'appelle déjà saint, mais il est pas saint, il est nommé par l'archevêque de Canterbury Thibault, là, archidiacre. Il n'est pas prêt, archidiacre. Par le roi, il est nommé chancelier du royaume, le bras droit du roi. Après quelques tâtonnements, il se révèle dans tous les domaines un bon administrateur, puis en 1159, son ami Jean de Salisbury, qui dédie une espèce de théorie du gouvernement des cités intitulée Polycraticus, il écrit dans cette chose, dans ce livre, que le prince est le premier serviteur de l'Église et de la loi. Ça engage déjà une espèce de suprématie du roi au-dessus de l'archevêque. Et pendant 7 ans, Becket sait emporter l'estime quand même et réduire tous les gens qui le jalousent au silence. Comment? Par une énergie. Une énergie qui est tempérée de tact et de prudence. Il a un grand équilibre. Il sait écouter. Et Thomas Becket sait tenir compte des critiques. Et son faste, sa richesse grandit avec ses revenus. Il a les plus beaux chevaux, les meilleurs faucons du monde, ses chiens sont excellents. Mais faut savoir que Saint-Charles Borromée, quand il était jeune évêque, il avait un grand intérêt pour ses chiens. Il avait beaucoup de chiens, un chenil, oui. Thomas Becket montre sa valeur guerrière dans une affaire du comté de Toulouse. Je vous raconte ça en 2 minutes. Le roi Henri II soutient contre le roi Louis VII les droits d'Aliénor d'Aquitaine, qui a réalisé un renversement des alliances. Elle est passée du roi français au roi anglais. Alors, Thomas Becket perçoit les impôts pour payer l'armée anglaise. Il augmente les troupes de la France de l'Ouest et de l'Écosse, là, qui lui appartiennent. Et pour sa part, donc, Thomas Becket, qui est chancelier, amène 700 hommes pour la guerre, 700 hommes d'élite, qu'il commande personnellement, puis il les place près de Toulouse, et puis ses forces, les places de Toulouse sont prises d'assaut. Thomas Becket attaque avec ses hommes, il fait la guerre, et il a beau être un clerc. Et en juin 1159, on arrive devant Toulouse, occupée par le roi de France, Louis VII. Alors, Henri d'Angleterre, Henri II, fait semblant de vouloir respecter le roi Louis, alors que Thomas conseille d'attaquer, lui. Après la Toussaint, bien, les Anglais se replient. Ils sont trop loin, finalement, de leur base. Ils souffrent d'une épidémie. Puis la lutte reprend dans le nord de la France, en Normandie. Et là, Thomas Becket mène ses gens. Et puis, c'est terrible. On le voit se mesurer en combat singulier avec Enguerrand de Trie, un chevalier français renommé. Puis au premier choc, Enguerrand est désarçonné. Thomas Becket gagne et sa troupe devient célèbre. Puis le son strident de ses longues trompettes donne du courage aux siens, mais ça suscite l'angoisse chez ses ennemis. Voilà qu'il suscite l'angoisse chez ses ennemis, un futur saint étrange. Arrêtons là pour faire une pause et écoutons les Anonymous Four. Ce sont quatre femmes de l'église St. Michael's du Manhattan, une église épiscopalienne, qui chantent de la musique anonyme du Moyen-Âge et elles nous chantent « O Maria Stella Maris ». Je vous ai dit que Thomas Becket était chancelier du roi Henri II. Ils ont 14 ans de différence, mais il y a une joyeuse camaraderie entre les deux. Alors, Thomas admire le roi, il lui est loyal. Le roi, lui, est un peu brusque, c'est un jeune, hein? C'est un roi. Il est véhément de tempérament. Il peut se livrer parfois même à de grandes colères. Et puis, chose étrange, Thomas Becket, ça ne lui déplaît pas. Il aime ce genre de caractère. Henri II aime la chasse, comme Thomas d'ailleurs. Et Thomas Becket éprouve le besoin de compenser ce que sa vie a de mondain et de dissipé. Il fait de grandes aumônes, des aumônes très importantes. Il fait des efforts, aussi, pour maintenir les droits de l'Église. Il prie longtemps. Il fait même des pénitences cachées. La sainteté s'en vient. L'archevêque de Canterbury, Thibault, là, meurt en avril 1161 après 22 ans d'épiscopat. 22 ans, c'est assez long. Hein. Et il trouvait son archidiacre, Thomas Becket, un peu trop lancé dans le monde. Il le sermonnait parfois. Il le fait venir à son lit de mort. Mais Thomas Becket est retenu par la raison d'État, il est chancelier, puis il peut pas venir. Qui va donc prendre la place de l'archevêque Thibault, archevêque de Canterbury? C'est un Normand, peut-être, Gilbert Folliot, ex-prieur de l'abbaye de Cluny, la plus grande abbaye du monde, en France. Puis, il a été prieur d'Abbeville, il a été abbaye de Gloucester, en Angleterre, en 1139. Il a été même évêque de Hereford, en 1148. Alors, il convoite évidemment le siège primatial, le principal de l'Église d'Angleterre, l'Église catholique d'Angleterre, Canterbury. Mais il doit malheureusement se contenter de Londres, pauvre lui. Il y a aussi la vieille rivalité entre York et Canterbury, hein, Canterbury, il y a une rivalité. L'archevêque d'York, c'est Roger de Pont-l'Évêque, un autre Normand. Un ex-archidiacre de Thibault de Canterbury, à Canterbury. Il a été sacré évêque par lui, d'ailleurs, en 1154, le 10 octobre. Or, finalement, c'est Thomas Becket qui est élu comme archevêque de Canterbury à la fin de mai 1162. Alors, il n'est pas prêt. Il faut l'ordonner le samedi après la Pentecôte, puis il est consacré dans sa cathédrale le lendemain, le 3 juin, le jour de la Pentecôte. Ça se fait vite, hein? Prêtre, puis évêque en deux jours. Il est le premier en Angleterre à célébrer solennellement la fête de la Trinité. C'est une anecdote intéressante. Il institue cette fête dans son diocèse, au dimanche, octave de la Pentecôte, en souvenir de sa consécration. Et sa foi en la Trinité est immense et solide. Il a alors 44 ans, jeune. Sa promotion a été favorisée, ou même imposée peut-être par le roi. Il l'aime bien, mais le nouveau primat met son point d'honneur à être, à partir de ce moment-là, strictement d'église. Et le drame commence. Il ne tient pas du tout à baisser les chines, à se courber pour plaire au roi. Sa vie se fait plus austère, plus difficile, plus rude. Tout en gardant une certaine magnificence, un certain éclat, il est archevêque de Canterbury, primat de l'Angleterre. Il est responsable de la plupart des diocèses d'Angleterre. Par ce goût du panache, il diffère du calme de l'archevêque Thibault qui vient de mourir. Des conflits ne tardent pas à naître entre le roi et lui. Henri entend avoir la main sur cette église, aujourd'hui on l'appelle anglicane, sur l'église catholique d'Angleterre. Et il compte sur l'aide de son ancien ami, Thomas Becket, alors par les constitutions de Clarendon, qui ont été promulguées en janvier 1164, on revenait, assurait-il, aux coutumes ancestrales, et les constitutions tendent à minimiser les relations du haut clergé anglais avec Rome. Il faut pas que le clergé soit trop centré sur Rome, mais soit bien soumis au roi. Alors Thomas Becket, lui, s'oppose à la politique royale avec brusquerie. Je vous l'ai dit, t'es brusque. Il prend pas conseil. Il a les défauts d'un saint, je dirais, pour être un peu taquin là. Oui, les saints ont parfois des défauts. Il paraît qu'un saint dans un monastère, c'est pas toujours endurable, disent certains moines. Je sais pas si c'est vrai. Alors, il perd nombre de ses amis. Les évêques hésitent à le suivre. Certains même le trahissent. Thomas Becket connaît des jours très sombres et la partie s'annonce perdue. Il songe à quitter son poste. Alors, il y a des essais de réconciliation qui sont inutiles, même humiliants. Il éprouve comme une agonie de l'esprit, on pourrait dire. Bien autrement dire que toutes les craintes qu'il avait quand il était à la guerre, dans les bonnes batailles rangées, comme on faisait la guerre dans ce temps-là, hein, il se voit jeté en prison, il s'imagine qu'il va aller mourir de mort honteuse, que le roi va le jeter en prison. Hein. Il s'imagine que le pape et le roi vont faire la paix sur sa tombe. Il en est malade, il veut défendre les droits de l'Église. Son confesseur le réconforte. Son confesseur lui dit « L'affaire ne dépend plus de vous, mais de Dieu. Dieu sera avec vous. Tenez bon dans votre juste cause. » À l'Assemblée de Northampton, en octobre 1164, Thomas Becket, malade, est condamné. Oui, condamné par contumace pour avoir enfreint les promesses de Clarendon. Il est mis à l'amende. On attaque sa gestion de la chancellerie. Et puis, il est sommé de comparaître pour entendre la sentence. Thomas Becket, après avoir célébré la messe de Saint-Étienne, hein, le premier martyr, il se présente la croix archiépiscopale en main. Il défend à ses collègues évêques de prendre part à son jugement. Comme il se retire, des chevaliers crient au traître. Thomas dit à l'un d'eux avec un geste expressif, « Si ses mains n'étaient pas d'un prêtre, tu verrais, parce que c'est un homme costaud et décidé, mais il est évêque, il peut pas se battre. Il est trop tard. » Et justement tard dans la nuit, déguisé en simple frère convert du chanoine régulier, là, Il gagne la côte de l'Angleterre, puis là, en route, il accepte sans façon le bâton d'une femme de pêcheur que la femme prend au coin de la cheminée pour le lui donner. Là, il s'embarque sur le bateau, il prend la mer. Le 2 novembre, oui, on l'a fait des morts. 1164. Et l'exil en France dure 6 ans. De 1164 à 1170, 6 ans de retraite. Après les activités un peu trépidantes d'un primat de l'Église d'Angleterre, il se fixe à l'abbaye cistercienne de Pontigny, une belle abbaye, ça, sobre, oh que c'est beau, ce qui en reste, dans l'Yonne, pas loin de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Puis, il y a un semblant de curie avec lui, là. Une espèce de... des gens qui l'aident, et puis quelques fidèles. Alors, des lettres, des visites lui arrivent. Pensez-y, hein, il est archevêque sur 17 diocèses d'Angleterre, alors que l'Angleterre en compte tout simplement au total 19. Il est primat. C'est quand même le légat permanent du Saint-Siège. Alors, il veut continuer à faire bonne figure, même s'il est exilé. Et ses amis doivent lui conseiller de modérer son train de vie à Pontigny. Finalement, après des événements, des menaces du roi contre les cisterciens de Pontigny, il déménage à Sens. Il se fait accompagner de toute une cavalerie. Les loisirs favorisent heureusement la méditation et l'étude. Et Thomas Becket veut suivre l'observance monastique. Il veut faire comme un moine. Il veut suivre le régime austère des religieux. Il fait des prouesses de mortification et les premières semaines sont douces et le roi de France le salue finalement comme un confesseur du Christ, lui. Puis le pape Alexandre III, qui a reçu des appels de l'évêque de Londres, Gilbert Folliot, et de Thomas Becket, a publiquement reconnu dans le primat Thomas Becket le champion de l'Église. Mais le pape, finalement, aux prises avec un schisme, il y a deux papes depuis 1159, ben, il peut pas ne pas ménager Henri II, car l'Angleterre et la France l'ont reconnu comme le vrai pape, tandis que l'empereur d'Allemagne, Frédéric Barberousse, soutient l'antipape Victor IV. Alors, en 1165, trois lettres de Thomas Becket essaient de reprendre le dialogue avec le roi sur un ton nouveau, tout spirituel, spirituel profond, de père à fils. Il lui dit « Loqui de Deo, desiderio desideravi ». Expectans, expectavi, hein. Je te parle de Dieu, d'un grand désir, j'ai désiré. D'une grande attente, j'ai attendu, hein. Et Henri II, le roi, ne répond pas. C'est un grand personnage. Thomas Becket n'a pas, disons, un passé tout blanc, blanc, blanc. C'est pas un saint à la façon paisible de saint Anselme de Canterbury. Non, non. Saint Thomas Becket est un saint à notre mesure, peut-être, dans un sens. Hein? Il a cédé aux complaisances mondaines. Puis par besoin de compensation, bien, il s'est porté violemment aux extrêmes. Et sans prendre conseil, bien, il a promulgué à Vézelay, en France, en 1166, plusieurs excommunications contre des collaborateurs de Henri II. Et le roi riposte en exigeant que Thomas Becket soit expulsé de tout monastère cistercien sous peine de représailles contre l'ordre en Angleterre. Il exile tous ceux qui appartiennent à la maison de Thomas Becket. Et le primat Thomas Becket donc se transporte chez les bénédictines de Sainte-Colombe à Sens. Les tentatives officielles de médiation sur l'initiative du pape échouent, malheureusement, de 1168 à 1170. Le 14 juin 1170, Henri II fait couronner son fils aîné Henri le Jeune par l'archevêque d'York. Ce qui constitue une grave insulte aux droits du primat de Canterbury, Thomas Becket. Satisfait de cette réussite, mais aussi inquiet des menaces du pape, le roi Henri II décide d'offrir la paix à Thomas Becket. Là, le 22 juillet, dans un château de Touraine, à Fretval, le roi puis l'archevêque esquissent un programme pacificateur. Faut établir la paix, finalement. Mais le roi s'arrange pour ne pas donner le baiser de paix à Thomas Becket. Pourtant, c'était de grands amis autrefois. Becket venait de se décider à rentrer en Angleterre. Alors, en apprenant qu'au bruit de son retour, des dignitaires ecclésiastiques s'apprêtent à une résistance en règle, il lance des lettres de suspense, comme on dit, contre ses ennemis, le mardi 1er décembre 1170, la veille du jour où il prend la mer. Et puis, pour se rendre en Angleterre. Et les évêques de York, de Durham, de Londres, de Salisbury, puis les autres suffragants de Thomas Becket, archevêque de Canterbury, se mont si vertement par Thomas Becket. Alors, les prélats de l'Angleterre, ces évêques, sont tous des gens distingués quand même. Ce sont des savants, c'est pas n'importe qui. Et ce sont des spécialistes en droit canon, en droit de l'Église. Thomas a parmi eux des ennemis, mais il y a aussi des ennemis. Et certains hésitent entre lui, puis le roi, puis les incertitudes de Thomas Becket, ses colères, les empêchent peut-être de faire bloc devant les excès absolutistes du roi d'Angleterre. On peut trouver dur et peu politique, si on peut dire, l'attitude de... qui est pas très très politiquement correcte de Becket envers le vieil évêque de Salisbury. Il déclare cet évêque suspense, comme on dit, en 1166, puis l'excommunie 3 ans plus tard. Ce Normand, cet évêque de Salisbury, qui est un Normand du nom de Jocelyn, Monseigneur Jocelyn, est loin d'être hostile au primat Becket, mais par faiblesse, il a admis la nomination d'un doyen, justement excommunié par Thomas Becket. C'est sans grand profit, jeter Jocelyn dans les bras de Gilbert Folliot, l'évêque de Londres. L'évêque de Londres témoigne à Becket une haine froide, implacable, parce que l'évêque de Londres est toujours jaloux de Thomas Becket. Il y aurait voulu être archevêque de Canterbury. Il est implacable. Il se cramponne aux erreurs de son adversaire. Il est imperméable à tout ce qu'il y a de bon chez Thomas Becket. Et ce malheureux évêque de Londres, Folliot de Londres, comme on dit, n'a plus ni humilité ni charité. Il écrit une lettre qui s'appelle « Multiplicum », que l'on a longtemps cru inauthentique, tellement la passion de cet évêque y fausse la vérité. C'est un affreux chef-d'œuvre polémique. Cet évêque est cruel et poli à la fois. Il a des traits terribles. Il dit à un moment donné, « Même les Juifs, mon père, ont méprisé Judas quand il est revenu avec le prix du sang. » On trouve ça dans la patrologie latine, dans le tome 190, dans la colonne 902. Une haine ecclésiastique, c'est plus souvent qu'une haine exquise. Je m'excuse de le dire, ce sont des bénédictins qui affirment ça. Ils disent aussi, ces bénédictins, « Optimi corruptio pessima ». La corruption de ce qu'il y a de meilleur est la pire. On me disait ça dans mon jeune temps. Le meilleur corrompu devient le pire. Alors la mesure prise par Thomas Becket pour son retour en Angleterre n'est pas des plus pacifiques. Elle a des motifs, disons, estimables. Toujours est-il que ça tourne contre Thomas Becket. Il voit que rentrer sans le baiser de paix royale, c'est marcher à la mort. Et peut-être que la mort serait la solution élégante, on dirait des problèmes quasi insolubles dans lesquels il est plongé, pour défendre, puisqu'il défend l'Église contre les excès du roi. Avec le temps, le but de Thomas Becket grandit. Il se spiritualise. Il veut défendre quand même les droits juridiques du clergé. C'est pas le roi qui doit nommer les évêques. Il veut pas. Puis il veut garder la liberté à l'Église anglaise, comme membre de l'Église catholique romaine. Il n'y a pas eu de schisme encore. Le schisme arrive des siècles plus tard, je vous le rappelle. Puis, en somme, il veut défendre la cause de Dieu contre César, comme on disait. Et là, la population lui dit, il lui fait d'ailleurs un accueil enthousiaste. On pense au Christ qui entre triomphant à Jérusalem parmi les palmes et les acclamations, et vous connaissez ça. Et cependant, à peu près tout ce qui compte lui fait une grise mine. On s'oppose à lui. Le roi s'écrie « Qui va me débarrasser de ce clerc outrecuidant ?» Alors 4 chevaliers décident de soulager le roi. Le mardi 29 décembre, je répète, ils pénètrent sans leurs armes, jusqu'à la salle auprès de la cathédrale de Canterbury où l'archevêque a pris son repas et s'entretient avec ses clercs et ses moines. Tout d'abord, il ne remarque pas les nouveaux venus et qui se sont assis sur le plancher. Il rougit violemment à la première insulte de l'un d'eux. Il s'appelle Renaud, fils ours, Fitz-ours. Ils exigent l'absolution des prélats excommuniés. Alors, il dit, vous perdez votre temps à me menacer. Pour lutter pied à pied, vous me trouverez toujours dans le combat du Seigneur. C'est beau. Vous me trouverez toujours dans le combat du Seigneur. Ça me fait penser au pape Jean-Paul II, ça, qui combat malgré tout. Alors les quatre assassins là, sortent en colère. Le primat Saint Thomas de Canterbury les suit jusqu'à la porte. Les chevaliers crient qu'on empêche le traître de fuir. Alors il s'écrie, lui, quoi, je ne fuirai pas, je reste ici. Et Saint Thomas retourne s'asseoir. Il prie. Jean de Salisbury, un de ses bons clercs, ses assistants, ses amis, lui fait des reproches candidement. Vous êtes toujours le même. Vous agissez et vous parlez sans prendre conseil. Il lui répond, alors que devrais-je faire, Père Jean? Mais y réunir votre conseil? Vous ne voyez pas que ces chevaliers ne cherchent qu'un prétexte pour vous tuer? Il dit, nous avons tous à mourir. La peur de la mort ne doit pas nous détourner de la justice. Je suis plus prêt à mourir pour l'amour de Dieu que ces gens ne le sont à me tuer. C'est une des paroles clés de la sainteté de Saint Thomas, Becket. Je suis plus prêt à mourir pour l'amour de Dieu que ces gens ne le sont à me tuer. Le Christ pouvait dire la même chose quand on le conduisait à la croix, au calvaire. Alors Jean de Salisbury lui dit, parlez pour vous. Nous autres pécheurs ne sommes pas prêts. Personne ici n'a envie de mourir sauf vous. Et Becket conclut, la volonté de Dieu soit faite. Il le dit très tranquillement. Et on entend alors les chevaliers qui reviennent bruyamment en armes. Les moines affolés supplient le primat de passer dans l'église. Et il dit, pourquoi vous effrayez, mes pères? Ah, ces moines, c'est toujours peureux et craintif. C'est Thomas Becket qui le dit, c'est pas moi. Je ne sais pas si les moines sont si craintifs que ça. Le tapage augmente. Et malgré ces protestations, les moines poussent Becket vers l'église. Ils exigent alors que le mouvement se fasse décemment avec porte-croix en tête. Comme on barre la porte, il dit, ah non, l'église de Dieu n'est pas une forteresse. Et Saint Thomas Becket monte l'escalier qui conduit au déambulatoire et au chœur quand les cris de l'envahisseur retentissent à la porte. Et Thomas Becket redescend en disant, je vais au-devant. Dans la nuit tombante, l'immense église, cathédrale de Canterbury, l'immense église amicale, lui ouvre des trésors de bonnes cachettes sombres. Ben oui, c'est immense. Il y a des escaliers qui conduisent au comble. Et quelques moines le repoussent vers le maître-autel. Les chevaliers se cognent dans la pénombre à des fuyards. Il fait noir. Hein? Où est Thomas Becket, le traître au roi et au royaume? C'est ce que crie Fitz-ours. Et il reprend, où est l'archevêque? Et la voix du primat s'élève, ici, pas un traître, mais un prêtre. Je suis prêt au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. N'ayez crainte, vos épées ne me feront pas fuir, ni abandonner la justice, mais au nom de Dieu, ne touchez pas à mes gens. Alors il s'adosse à un pilier, puis s'adresse à Fitz-ours, là, en lui disant de son prénom Renaud, Renaud. C'est ainsi que tu me remercies de tout ce que j'ai fait pour toi. Alors là, les chevaliers essaient de le soulever pour l'emporter hors de l'église, et Fitz-ours, Renaud, l'empoigne. Ne me touche pas, Renaud, tu es mon vassal. Puis se débattant, lâcheras-tu, saleté? C'est un saint, mais il a du courage et de la fermeté, ça nous console, hein? Il jette à terre l'agresseur. « Je ne sortirai pas. Faites cela ici si vous l'osez. » Parce qu'on ne tue pas un archevêque dans sa cathédrale. Hein? Mais comme ils hésitent, il joint les mains, il s'en couvre les yeux, il incline la tête dans une prière fervente et dit, « Mon Dieu, Sainte Marie, Saint Denis, Saint Alphège, je vous remets ma vie et mon église. » Alors frappé, il dit encore, « Seigneur, je remets mon esprit entre vos mains. » Alors un clerc, Édouard Grimm, a un bras tailladé en essayant de le protéger. Au troisième coup, saint Thomas Becket tombe sur les genoux et sur les coudes en murmurant, « Pour le nom de Jésus et pour l'Église, j'accepte la mort. » Puis il s'étend de tout son long, près des autels de Notre-Dame et de Saint-Benoît. Son vêtement le couvre avec dignité, jusqu'aux pieds. Il a les mains levées, comme dans la prière liturgique. Pensons à la prière sur les offrandes de notre dimanche de la Trinité qu'il a établi en Angleterre, cette fête chère à saint Thomas. Et il demande à Dieu, comme on dit dans la prière sur les offrandes, « Par cette hostie offerte, faites de nous une éternelle offrande. » Alors le martyr est entré par son sacrifice dans l'action de grâce immortelle, vivante. Puis les assassins se permettent d'aller piller chez le mort. C'était le 29 décembre 1170. Faisons une pause et écoutons, toujours chanté par les Anonymous Four, qui s'intéresse à la musique anonyme du Moyen-Âge, quatre femmes de la paroisse St. Michael's Church de Manhattan, une église épiscopalienne. C'est sur disque Harmonia Mundi. Elles chantent Ave Maristella. Nous revenons donc à saint Thomas Becket, qui vient d'être assassiné. Ce crime cause un scandale considérable. Le roi Henri II d'Angleterre est frappé par le pape d'interdit personnel. Alors le roi Henri II finalement manifeste du repentir. Il reçoit l'absolution en 1172, le 21 mai, après avoir fait pénitence pendant plusieurs jours. La mort de saint Thomas Becket, archevêque de Canterbury, amène la réconciliation du roi d'Angleterre avec l'Église de Rome, avec le roi de France, avec l'Église de Canterbury, puis ses exilés. Et des miracles sans nombre entraînent la glorification de saint Thomas Becket. Le Saint-Siège le canonise le mercredi des cendres, 21 février 1173, donc à peine 2 ans, un peu plus de 2 ans après sa mort. La fête est fixée au 29 décembre, le jour de sa mort, est adoptée avec entrain par toute l'Angleterre. Il y a une translation solennelle des reliques qui a lieu en 1200. Mais Henri VIII a fait décanoniser cet adversaire de la couronne en 1538. Oui, en 1538, après 400 ans, près de 400 ans après sa mort, le roi d'Angleterre, Henri VIII, lui fait endurer, on pourrait dire, un second martyr. Ce roi vient de se révolter contre l'Église catholique, comme vous savez, à cause de divorce. Et il veut passer pour chef. de cette église dans l'Angleterre. Il conçoit une telle aversion contre saint Thomas Becket, qui a été le plus ferme appui de l'autorité du pape, seul chef, à mon avis, de l'Église universelle, que, non content d'avoir pillé tous les trésors de la cathédrale de Canterbury dont il fait enlever 6 chariots chargés, eh bien le roi Henri VIII le fait comparaître personnellement, dans ses ossements, devant son tribunal. C'est une entreprise aussi ridicule que celle de gens qui menacent de faire fouetter la mer parce que la mer a fait sombrer un bateau. Il y a des gens qui faisaient ça dans ce temps-là. Ensuite, le roi le condamne comme criminel de lèse-majesté. Il ordonne qu'il soit rayé du catalogue des saints. Il défend sous peine de mort de chômer le jour de sa fête ou d'implorer son intercession par des prières, ou de visiter son tombeau et d'avoir même un calendrier dont le nom sur lequel le 29 décembre il y aurait le nom de saint Thomas Becket. Il fait brûler ses ossements sacrés, il les fait jeter les cendres au vent. Enfin, il n'épargne rien pour en abolir entièrement le culte et la mémoire. Et quand on pense que il a été pire finalement que le roi Henri II, puisque le roi Henri II ne l'avait persécuté que quand il était vivant, pour dire. Et sa sainteté est devenue immense tout de suite après sa mort, et Henri II ne s'est pas révolté. Tandis que Henri VIII l'a persécuté d'une façon épouvantable. Quand on dit tout ça, je ne veux pas tout vous lire. Ça, c'est épouvantable. On n'a pas idée. Pauvre Henri VIII. On a découvert donc dans la cathédrale de Canterbury, en 1888, des ossements humains. Et il y en a qui croient que ce seraient certains ossements qui auraient été sauvés. Mais ça semble pas. Les ossements ont tous été perdus. Vous savez que dans les contes de Canterbury, qui sont très fameux, de Chaucer, il a écrit ça vers l'an 1400, font sentir l'importance des pèlerinages qui se sont organisés vers Canterbury puis la tombe du martyr. Il y avait une expression anglaise qui courait toujours à travers les siècles, et je pense qu'elle existe encore dans les campagnes anglaises, « by Saint Thomas », l'exclamation « par Saint Thomas », c'était devenu courant. Son culte s'est répandu très très loin. Dès le XIIIe siècle, l'éloge de ce grand martyr s'est inséré, même jusqu'en Arménie, en Islande, on le vénérait partout. Il y a beaucoup beaucoup de tableaux de lui, d'œuvres d'art, c'est incroyable. La cathédrale de Chartres est aussi un grand témoin avec 2 vitraux, dont l'un comporte 25 scènes de la vie de saint Thomas Becket. Plus de 30 scènes ont été peintes sur bois en Suède au début du XIVe siècle, quand la Suède était catholique. Avec Henri VIII, c'est ouvert donc en Angleterre pour notre martyr, c'est une ère d'iconoclasme qui a fait disparaître presque tout des milliers d'œuvres d'art consacrées à ce très grand saint en Angleterre. T.S. Eliot l'a fait revivre dans cette pièce admirable, Meurtre dans la cathédrale. Et dans le centre de sa pièce, il y a un sermon qu'il attribue à l'archevêque de Canterbury, prêché dans la cathédrale le matin de Noël 1170. Il y a de très très beaux passages. Je vous en lis un petit peu. Mes bien-aimés, nous ne considérons pas un martyr simplement comme un homme qui a été tué parce qu'il est bon chrétien. Car alors, nous nous lamenterions simplement. Nous ne pensons pas à lui seulement comme un bon chrétien qui a été élevé à la compagnie des saints, car alors nous nous réjouirions simplement, et ni notre deuil ni notre joie n'est celle que le monde connaît. Un martyr chrétien n'est pas un accident. On ne fait pas les saints par accident. Encore moins le martyr d'un chrétien peut-il être l'effet de la volonté de l'homme de devenir un martyr. Comme un homme, à force de volonté et d'effort, peut devenir un chef, non. L'ambition fortifie la volonté d'un homme de devenir le chef des autres hommes. Elle opère avec la tromperie, la cajolerie, la confiance. C'est l'action de l'impureté sur l'impureté. Rien de pareil au ciel. Non, un martyr, un saint, est toujours fait par le projet de Dieu, par son amour pour les hommes, pour les avertir et les guider, pour les ramener à ses voies, à ses chemins. Un martyr n'est jamais le dessein de l'homme, car le vrai martyr est celui qui est devenu l'instrument de Dieu, qui a perdu sa volonté dans la volonté de Dieu, qui ne l'a pas perdu mais trouvé, puisqu'il a trouvé la liberté dans la soumission à Dieu. Le martyr ne désire plus rien pour lui-même, pas même la gloire de subir le martyr. Ainsi, de même que sur la terre, l'Église se lamente et se réjouit à la fois, d'une façon que le monde ne peut comprendre. De même, les saints au paradis sont exaltés très haut, étant rabaissés très bas, se voyant non pas comme nous les voyons, mais dans la lumière de la divinité d'où ils tirent leur existence. C'est un texte de T.S. Eliot dans Murder in the Cathedral, Meurtre dans la cathédrale. Vous trouvez ça dans Livre de vie, le numéro 51. Oui, le numéro 51 de Livre de vie paru aux éditions du Seuil. Je crois que c'est toujours en vente. Meurtre dans la cathédrale de T.S. Eliot, une pièce de théâtre admirable.